Bonjour Nasser Madji.
Bonjour Frédéric.
En Argentine, des adolescentes se mobilisent pour la légalisation de l'avortement.
C'est la révolution des filles. Elles n'ont parfois pas 15 ans et elles ne demandent pas la légalisation de l'avortement. Elles l'exigent, nous dit le journal Le Monde. Leur symbole, un foulard vert. Leur référence, on pourrait même dire leur idole à 18 ans seulement, s'appelle Ophélia Fernandez. C'est elle qui, fin mai, s'est exprimée devant les députés dans un discours qui a beaucoup marqué les esprits. Après être passé de justesse à l'Assemblée, c'est au Sénat de se prononcer aujourd'hui sur ce projet de loi. « Nous ne nous battons pas que pour le droit à disposer de notre corps », explique Ophélia Fernandez. Il s'agit aussi du droit au plaisir des femmes et à leur autonomie. Ce mouvement féministe puissant, que l'on retrouve aussi d'ailleurs au Chili, est porté par une jeunesse de gauche, souvent issue de l'élite argentine. Précision importante car, comme le dit toujours dans Le Monde, le sociologue Mariano Desac, dans les écoles des quartiers plus pauvres de Buenos Aires, il n'y a pas de foulard vert. Cette loi sur la légalisation de l'avortement divise en effet fortement l'Argentine, nous rappelle de son côté le journal La Croix. Dans le camp des pro-vie, pour qui l'avortement est une pratique criminelle, une foule impressionnante s'est réunie samedi dernier. C'est l'ultra-catholique Mariana Rodriguez Varela, fille d'Alberto Rodriguez Varela, ministre de la Justice pendant la dictature militaire, qui en est la figure de proue. L'Église est particulièrement mobilisée. Le pape François, originaire d'Argentine, qui n'a pas l'habitude d'interférer dans les décisions politiques de son pays, a multiplié les déclarations pour dénoncer l'avortement. Ce soir, pendant les débats au Sénat, les pro-vie assisteront à une messe dans la cathédrale de Buenos Aires, alors que tout près de là seront rassemblés les partisans de l'IVG. Si le projet de loi était adopté, ce serait un coup de tonnerre pour toute la région. L'avortement n'est autorisé qu'à Cuba, en Uruguay, à Guyana et dans la ville de Mexico. L'avortement en Argentine peut être bientôt légalisé, un sujet que vous pouvez également retrouver ce matin sur le site de franceinter.fr, un dossier signé Naïla de Rouanet.
Dans la une, dans la presse également ce matin, à la une, Nasser, le combat d'un jardinier californien contre Monsanto.
Son nom, Dwayne Johnson, et il fait la une de Libération ce matin. C'est une photo pleine page, l'homme, costume parfaitement ajusté, regarde en l'air comme s'il implorait le ciel. L'image a été prise pendant le procès qui l'oppose au géant des pesticides. Dwayne Johnson, 46 ans, va bientôt mourir, condamné par un cancer causé par l'utilisation du Roundup et du Ranger Pro. Entre 2012 et 2015, il a répandu ses produits dans les cours, les salles et les terrains de sport des écoles du district de Benicia, dans la baie de San Francisco. En 2014, on lui diagnostique un lymphome qui lui a meurtri la peau sur 90% du corps, nous raconte Libé. Je suis allé voir mon supérieur pour lui parler de mon cancer et il m'a dit « il faut généralement 2 ans pour en choper un avec ses produits ». C'était la première fois que j'entendais parler de ces risques. L'affaire ébranle Monsanto qui a réussi pour l'instant à éviter les condamnations définitives, mais l'action des avocats de Dwayne Johnson a permis de révéler des centaines de documents secrets très compromettants de l'entreprise. Libération d'ailleurs en fait une synthèse, vous pouvez la consulter. Pour ce premier procès qui pourrait faire jurisprudence, 12 jurés devront donc donner une réponse unanime à 3 questions. Le Roundup, le Ranger Pro et leur principe actif, le glyphosate, sont-ils cancérigènes? Monsanto a-t-il essayer de cacher ses risques aux consommateurs et combien doit-il débourser pour ses dommages aux plaignants et à ses proches.
Le préfet de police de Paris de plus en plus fragilisé dans l'affaire Benalla.
Je n'ai jamais entendu parler de Benalla. C'était peu ou prou la défense de Michel Delpech depuis le début de l'affaire, mais un article du Canard Enchaîné ce matin remet en cause ses déclarations. En perquisitionnant le domicile de l'ex-garde du corps du président, les policiers sont en effet tombés sur une chaleureuse bafouille de monsieur le préfet, adressé à Benalla en personne, c'était fin janvier. Sur cette carte de visite récupérée par le Canard, on peut lire ce petit mot manuscrit. « Cher ami, merci pour cette magnifique photo avec le couple présidentiel, amicalement signé Michel Delpech. » La photo en question, c'est le préfet qui pose avec 2 patrons de la police, avec à leur côté Brigitte et Emmanuel Macron. Le haut fonctionnaire parle d'un pur geste de courtoisie, après avoir évoqué pourtant au début de l'affaire le copinage malsain du même Benalla. Hier, c'est Le Monde qui révélait que le jeune couple qui a été molesté par Alexandre Benalla n'a pas cherché à dissimuler son identité, comme l'avait pourtant affirmé Michel Delpech déjà devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale.
Dans le cas Qatar enchaînait toujours, Nasser Madji, des stars qui font des caprices et des programmateurs qui pètent les plombs.
C'est la saison des festivals et le journal en a profité pour recueillir les témoignages d'organisateurs de concerts au bord de la crise de nerfs. La raison, les demandes parfois délirantes des musiciens et autres vedettes de la variété. C'est le chanteur Christophe, par exemple, qui exige un piano à queue, loué 1 500 euros tout de même, mais qu'il n'utilisera que pour une chanson. Il faut aussi des bouteilles de vin de grande maison ou des whisky hors de prix, raconte Philippe Chanclu. Dans le milieu, Aznavour a lui la réputation d'avoir rempli sa cave avec des grands Bordeaux. Une régisseuse se rappelle aussi qu'un artiste ne voulait pas de frigo dans sa loge à cause des ondes, qu'il fallait tout nettoyer au vinaigre et acheter des croquettes pour son chat. Sur la liste demandée par le chanteur britannique Tricky, on trouvait un godemiché. On lui en a fabriqué un en aluminium, bien poli, avec le nom dessus et la date du concert, se souvient le programmateur Christian Lacroix. Les musiciens étaient morts de rire. Enfin, Dafer Youssef, l'un des plus grands joueurs au monde de oud, c'est une petite guitare arabe, demande toujours une suite 5 étoiles afin, dit-il, de faire respirer son instrument.
Mais oui, pourquoi ne pas faire respirer son oud? Nasser, pour conclure, l'histoire d'un jour béni.
Celui de Morad Hamdouni, qui est devenu hier le premier champion d'Europe français sur 10 000 mètres à Berlin. À 30 ans, le Corse fait la une de l'équipe et plusieurs journaux de West France aux Parisiens reviennent sur cet exploit en forme de revanche. L'équipe qui nous raconte ses galères, comme cette blessure au talon d'Achille qu'il tiendra éloigné plus de 2 ans des terrains d'entraînement, ses blessures au bassin, au genou. Le problème, dit-il, c'est que dès l'âge de 12 ans, ça m'arrivait de courir pendant 3 heures. À l'époque, c'est mon père qui m'entraînait, mais c'était des trucs un peu à l'ancienne. Il ne comptait pas les kilomètres, c'était délirant. Le papa, qui connaît bien le football, mais moins l'athlétisme manifestement, va finir par laisser son fils intégrer le club de Bastia en cadet pour des entraînements plus rationnels. En 2016, il rate le podium des championnats d'Europe pour quelques centièmes. Et c'est le DTN de l'époque, Gani Yalouz, qui le convainc de ne pas abandonner l'athlétisme. C'était une bonne idée. Morad Hamdouni va également s'aligner sur le 5000 mètres. Ce sera samedi où il retrouvera un autre Français, Mayedine Mekissi.
C'était la revue de presse de Nasser Mekissi.